Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnelle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Et voyez, me voici à 4-5 ans, traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbre, ni de maison autour. Il n'y a que la sueur due à l'effort de traîner ce corps dur et la brûlure aiguë des paumes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue jusqu'aux chevilles, mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer. Je veux vous dire ce qui a été, sans rien altérer. Donc, je traînais ce bout de bois, et après l'avoir caché ou abandonné, j'entrais dans le grand trou du mur que ne fermait qu'un voile noir couvert de mouches. Je me trouve à présent dans l'obscurité de la chambre où l'on dormait, où l'on mangeait pain et olives, pain et oignons. On ne cuisinait que le dimanche. Ma mère, les yeux dilatés par le silence, coud dans un coin. Elle ne parle jamais, ma mère. Ou elle hurle, ou elle se tait. Ses cheveux de lourd voile noir sont couverts de mouches. Ma sœur assise par terre, la fixe de deux fentes sombres ensevelies dans la graisse. Toute la vie, du moins ce que dura leur vie, elle la suivit toujours en la fixant de cette façon. Et si ma mère, chose rare, sortait, il fallait l'enfermer dans les cabinets, parce qu'elle refusait de se détacher d'elle. Et dans ces cabinets, elle hurlait, elle s'arrachait les cheveux, elle se tapait la tête contre les murs jusqu'à ce qu'elle, ma mère, revienne, la prenne dans ses bras, et la caresse, sans rien dire. Pendant des années, je l'avais entendu hurler ainsi, sans y faire attention, jusqu'au jour où, fatigué de traîner ce bois, m'étant jeté par terre, je ressentis, à l'entendre crier, comme une douceur dans tout le corps. Douceur qui bientôt se transforma en frisson de plaisir, si bien que, peu à peu, tous les jours, je commençais à espérer que ma mère sorte pour pouvoir écouter, l'oreille à la porte des cabinets, et jouir de ses hurlements.
Au fil des arts.
Premier numéro.
Deux femmes.
Deux voix.
L'une écrit des chansons.
L'autre des romans.
Colette Mani.
Goliarda Sapienza.
L'une française.
Et l'autre italienne.
Deux femmes si semblables.
Que nous aimons.
Que nous voudrions vous faire découvrir en une heure.
Quelques chansons.
Quelques mots. Pour mieux comprendre ces deux artistes, il faut essayer de repérer quelques moments essentiels, ce qui éclaire toute une œuvre et démontre à quel point nous avons affaire à deux personnalités hors du commun. Nous avons commencé l'émission avec Mélocotton de Colette Mani. Elle démarre sa carrière en 1962 avec ce titre qui restera son plus grand succès. Auteur, compositeur, interprète, elle est née en 1926, décédée en 1997. Son répertoire est très étendu, jazz, blues, rock, free jazz, chansons protestataires. Elle découvre également la musique électroacoustique. Ses chansons, les textes qu'elle a interprétés, ont tous été puissamment servis par une bouleversante voix grave qui n'aurait pas détonné sur les rives du Mississippi. Avant de se lancer dans la chanson, elle travaille pendant 17 ans en tant que secrétaire bilingue et traductrice à l'UNESCO, puis elle se décide à se consacrer à la chanson. Elle se produit dans les cabarets de la Contrescarpe à Paris en 1962, fait même la première partie de Claude François et Sylvie Vartan à l'Olympia. Mais ce n'était ni sa route ni sa vérité. Elle s'engage très vite dans une voie plus contestataire. C'est toujours vers le monde populaire que son regard se tournait. Il n'est pas étonnant qu'elle se sente proche de ces chanteurs qui, eux aussi, n'ont jamais cessé de mettre en musique le combat pour une vie meilleure. Dans la famille Coup de poing, Ferré, c'est le père, Ribeiro, la fille, Lavillier, le fils, et moi, la mère, aimait dire cette artiste engagée. Une femme libre, rebelle, sans concession, intransigeante.
Tout comme l'était Goliarda Sapienza. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'évoquer ces deux femmes dans une même émission. Il faut dire un mot de ce prénom qu'elle a eu tant de mal à porter pendant toute son enfance. C'était celui d'un de ses deux demi-frères, Goliardo, retrouvé mort, noyé, dans la mer, 3 ans avant sa naissance à elle. Vraisemblablement un crime de la mafia. L'auteur italienne naît en 1924 à Catane, en Sicile. Elle meurt en 1996. Sa mère syndicaliste et son père avocat dirigent le journal Unione qui se bat contre les riches propriétaires terriens. En 1943, elle fréquente l'Académie d'art dramatique à Rome, mais rejette cet enseignement qu'elle juge rétrograde pour fonder une troupe d'avant-garde fortement influencée par la méthode Stanislavski. Elle travaille ensuite avec les plus grands cinéastes du néo-réalisme italien, Luchino Visconti, Luigi Comencini, Alessandro Blasetti, Cesare Zavattini, se passionnant ainsi pour les questions politiques et morales qui agitaient la société italienne dans les années 40-50 et dans un contexte où le manque de moyens financiers avait poussé les réalisateurs à sortir des studios et faire tourner des acteurs non professionnels. En 1962, Goliarda Sapienza fait une première tentative de suicide et elle recommence en 1964. Électrochoc, coma, de cette période douloureuse, elle retire l'idée que mieux vaut abandonner le monde artificiel des arts de la scène pour s'intéresser à la patte humaine et se consacrer à l'écriture. Goliarda n'existe pas, elle est l'existence même, disaient d'elle certains de ses amis. Elle se remettait constamment en cause avec passion, c'était un type de femme qui provoquait chez les autres une envie d'authenticité, tout comme son œuvre aujourd'hui encore.
Je suis un tout petit pachyderme de sexe féminin. J'en ai gros sur le cœur. Râle la trompe, râle la trompe. Les gosses y sont heureux quand ils pleurent. Après ils s'endorment. Moi j'en ai gros sur le cœur. Râle la trompe, râle la trompe. Celui qui a froid, il s'approche du feu. Mais moi ma cheminée, elle fonctionne plus. Il y avait un arbre au milieu de la forêt, mais je ne l'ai pas vu. La trompe. Barrique sur deux poutres, c'était déjà dur à l'école. Et maintenant, je suis sur l'autre versant de la colline. Les purs et durs m'en ont tellement fait baver que j'ai cru un moment ne plus jamais avoir envie de chanter. La trompe. Chanteuse petit chat pétition, chanteuse petit chat galette soutien. Potiche, ça peut plus durer. Potiche, ça peut plus durer. La trompe. La trompe. L'arbre préfère le calme, mais le vent continue de souffler. Femme objet, je suis en transit. Femme objet, je suis en transit. Ah, la trompe. À quel moment l'homme qui perd un par un ses cheveux peut-il être considéré comme chaud? Qui l'a dit, Lénine? Ah, mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas. Mais d'ici là, on a le temps de déraper sur le verglas.
Couleur FM 97.1, Le Pachyderme, une chanson de 1975 que Colette Magny a enregistrée avec le Free Jazz Workshop de Lyon. C'est tiré de l'album Transit.
Colette Magny, Goriada Sapenza. Elles sont tout aussi dissemblables physiquement qu'on peut l'être, mais se rejoignent par certains de leurs traits de caractère, et notamment par cette volonté qu'elles avaient de se faire le porte-voix des opprimés, par l'amour qu'elle portait à tous ceux qui n'en avaient pas, qui n'avaient pas comme elle le don de s'exprimer, tous ceux qui se sont nourris de leurs mots. On va voir dans le portrait que Jean Ferrat fait de la chanteuse pourquoi nous avons choisi d'écouter cette chanson. Énorme, elle devenait l'image de la déesse Terre qui parlait de ses entrailles par sa voix. Elle se nommait elle-même le pachyderme, elle disait qu'elle en avait ras la trompe de toute cette saloperie. Sa voix était bouleversante, une des voix du siècle, elle s'en foutait. Elle n'était pas contestataire, elle était révoltée, intègre jusqu'au fanatisme. Elle mettra sa vie en harmonie avec son chant. Elle était tout entière dans sa soif de justice, de solidarité, de fraternité. Lui téléphoner vers la fin des années 1990 revenait à recevoir une bordée d'injures. On était tous coupables de l'avoir ainsi oubliée, mais quelle gratitude de passer avec elle des heures au téléphone.
C'était un tout petit pachyderme. C'était tout petit. Il était tellement petit qu'il avait été rejeté par ses parents pour cause de rachité. Oh là là, pauvre petit pachyderme, il était petit. Il était tout petit. C'était un pachyderme qui faisait pas le poids. Tellement petit pachyderme. Oh là là, il avait que les bipèdes. Pour penser que c'était un pachyderme. Pauvre petit pachyderme. Il était trop petit pour les pachydermes, mais il était énorme pour les bébé père.
Tout petit.
Oh, petit. C'est pas possible. Trop petit, petit, petit. Pauvre petit pachyderme, que t'es trop petit. Tout petit, 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 le pachyderme. Alors il était malheureux, le pachyderme. Il était trop malheureux, ce petit pachyderme-là. Toujours assis sur deux chaises, il était... Il était pas possible. Pauvre pachyderme, t'es trop petit.
Colette Mani, le pachyderme, enregistré en 1975 avec le Free Jazz Workshop de Lyon, album Transit. Angelo Maria Pellegrino, qui passa avec Gagliarda les 10 dernières années de sa vie, a écrit un petit livre de 64 pages, Gagliarda Sapienza, tel que je l'ai connu, paru en 2015 aux éditions Tripode. Écoutons ce passage qui nous dit que dès son enfance, Gagliarda était déjà à l'écoute du monde.
Le portrait d'un écrivain ne peut éviter la description de ses années de formation. Dans le cas de Gagliarda, les années qui comptèrent le plus furent celles de son enfance, jusqu'à 10 ans, beaucoup plus que celles de l'adolescence. Pour au moins une raison simple, née dans une famille de militants socialistes, elle fut précocement obligée de quitter l'école quand celle-ci tomba sous l'emprise du fascisme. Ainsi, Gagliarda se forma autrement. À 12 ans, en plus d'avoir déjà appris à tirer et boxer, elle avait lu tout Dostoïevski, tout Tolstoï et Les Misérables. Le roman Sanine d'Artibachev la frappa d'autant plus que le reste, à cause de la figure du personnage principal. Elle fut initiée à ses livres par Ivanhoe, l'un de ses demi-frères. Maria Giudice avait eu 7 enfants d'un premier compagnon avant de rencontrer le père de Gagliarda, l'un de ses demi-frères donc qui étudiait le russe et avait pris en charge son éducation littéraire. Quand Ivanhoe s'aperçut qu'il avait peut-être un peu exagéré dans ses conseils de lecture, avec une enfant aussi jeune, il lui fit découvrir pour contrebalancer Courteline, Messieurs les ronds de cuir. Ce jeune homme l'avait d'ailleurs nourri à tous les sens du terme, puisque c'est lui qui l'avait également alimenté, bébé, avec du lait en poudre qu'il faisait venir de Suisse. Maria Giudice n'était plus capable d'allaiter après ses multiples grossesses et les péripéties de sa vie politique. Plus tard, c'était toujours avec amusement que Gagliarda évoquait la poitrine velue de la nounou qui lui mettait le biberon dans la bouche. La vraie formation de Gagliarda se déroula pourtant ailleurs qu'à la maison dans les ruelles de San Berillo, dans ce quartier populaire de la vieille ville de Catane, où se trouvait la demeure familiale et où son père avait son cabinet d'avocat. Elle commença très tôt à descendre dans la cour, à jouer avec sa demi-sœur Nika, le père de Gagliarda qui était veuf et avait eu 3 fils de son premier mariage, avait de plus reconnu plusieurs enfants naturels, dont Nika. Puis Gagliarda a pris l'habitude de franchir le grand portail de l'immeuble et filer dans les ruelles avoisinantes. Le quartier pullulait d'une vie bariolée qui allait des artisans les plus habiles, faussaires compris, aux habitués des bars mal famés, aux chanteurs ambulants, aux prostituées, aux conteurs des traditionnels théâtres de marionnettes, l'Opéra dei Pupi, où Gagliarda a commencé à travailler. À San Berillo, elle apprit aussi à saler les anchois, empailler les chaises, jouer dans les théâtres populaires, toujours en suivant les convictions socialistes de son père, qui prescrivait l'apprentissage de nombreux métiers. Son père avait aussi pris l'habitude de lui faire lire à voix haute les témoignages à charge sur ses clients. Il paraît qu'à partir du ton de sa voix d'enfant, Giuseppe Sapienza arrivait à discerner le vrai du faux. Les nombreux après-midi qu'elle passa dans l'antichambre du cabinet d'avocat la marquèrent tout autant. Les proches des clients les plus divers s'y épanchèrent, racontant à la fille de Maître Sapienza des épisodes de leur vie, leur vécu. Ces récits pleins d'humanité n'ont pu qu'influencer par la suite la façon de raconter de Gagliarda. Quand on lit la magnifique description qu'en a fait Gagliarda dans Moi, Jean Gabin, on peut considérer que cette salle d'attente a été comme l'incubateur de sa vocation littéraire.
Les deux femmes n'ont jamais fait de leur vivant l'unanimité. Elles ont dû faire face à la frilosité de leurs milieux respectifs, le monde littéraire pour l'auteur italienne et le milieu du spectacle et des médias pour la chanteuse française. L'écrivaine italienne n'eut pas la chance de voir son roman publié de son vivant. Quant à Colette Mani, elle fut l'objet d'une censure impitoyable.
À l'époque, nous sommes bien dans les années 60, les médias étaient contrôlés par le pouvoir politique qui exerçait un sévère contrôle sur tout ce qui était radio ou télévision. À l'ORTF, les disques de la chanteuse étaient rayés transversalement au stylet. Invitée au grand échiquier, la chanteuse accepte à la condition de pouvoir choisir ce qu'elle chantera. Devant le refus que lui oppose Jacques Chancel d'interpréter « répression », elle décide de ne pas chanter. Privée de maison de disques, elle est contrainte de lancer une souscription pour publier sa comédie musicale « Kevork ». En 1995, le chanteur belge Arnaud raconte qu'invité de l'émission « Pollen », lorsqu'il parle de faire venir Colette Mani, personne ne connaît ce nom.
Son sang-froid. Aïe, pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée, pour faciliter la circulation. Les trottoirs c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de pression, pas de pression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de pression, c'est pas un homme convenable, refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste, nous, c'est les trottoirs. M'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses, bonbons. Mais attention! Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, encombrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac. Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops. Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux? Bla 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 bla. Vite! La masturbation rend fou. Oh, vrai ou faux?
Couleur FM 97.1, cette chanson que nous venons d'entendre, Répression, qui date de 1972, extraite d'un album qui s'appelle lui aussi Répression, est une chanson absolument extraordinaire où l'artiste pousse au maximum à la fois la violence, la force, le cri de son texte et puis l'accompagnement musical. Il faut faire très attention à cet accompagnement musical qui est une richesse absolument extraordinaire en même temps que c'est une musique parfaitement contemporaine. Alors bien sûr avec d'autres outils, mais de la même manière, Goliarda Sapienza va pousser l'exigence de son écriture, de son métier d'écrivaine jusqu'à son maximum, et c'est peut-être pour ça qu'elle a tellement déconcerté le public de son époque. Donc elle a commencé l'écriture de l'art de la joie, dont nous avons entendu un extrait tout au début de l'émission, en 1967. Le roman est achevé en 1976, 9 ans après. Du vivant de l'auteur, le roman ne trouve pas d'éditeur parce que trop engagé, trop personnel, trop intime. Il ne correspondait pas à l'idée que l'on se faisait alors de la littérature. Ce n'est qu'en 1998 qu'une première publication voit le jour par un éditeur alternatif sans grande diffusion. Et il faut attendre 2005, la première édition française par Viviane Amy, pour qu'enfin ce roman commence sa renaissance, jusqu'à être étudié à l'université comme une des grandes œuvres du XXe siècle. Longtemps, trop longtemps, l'œuvre de Goliard à Sapiens a resté dans l'ombre, et si elle se retrouve désormais en pleine lumière, c'est principalement à vous, lecteurs français, qu'elle le doit. Beaucoup d'entre vous sans doute l'ignorent, mais le succès inattendu de son roman « L'art de la joie » lors de sa parution en France en 2005 eut des répercussions décisives jusqu'en Italie. Après des années de refus éditoriaux, d'incompréhension et d'attentes déçues, plusieurs éditeurs italiens manifestèrent tout à coup leur intérêt pour les textes dont elle m'avait confié la garde avant sa mort. Quelques mois plus tard, les éditions Einaudi annonçaient qu'elle s'engageait dans la parution de ses œuvres complètes. Par un brusque retournement du sort, Goliard a passé du rang d'écrivain marginal, quasiment méconnu, à celui de patrimoine national. Ce témoignage a été écrit par le dernier compagnon de l'auteur, qui s'exprime dans un petit livre dont nous reparlerons.
Ces deux femmes, à deux époques différentes, dans des contextes très éloignés, se rapprochent également dans leur engagement politique. Colette Manu fut d'abord peu politisée. « Mon éveil politique, dira-t-elle, il a été tardif. C'était pendant la guerre d'Algérie, en 1956, à propos d'une bagarre dans la rue. Ce qui m'a surpris, ce n'était pas la bagarre, mais la non-intervention de la police. Elle est dès lors saisie par une soif de comprendre la vie politique française et internationale et soutient tout particulièrement les milieux anticolonialistes. » En 1967, avec l'album Vietnam 67, Colette Mani se pose véritablement en chroniqueuse militante de son époque. Guerre du Vietnam, soutien à Cuba, aux grévistes des chantiers navals de Saint-Nazaire. Elle milite aussi contre les essais nucléaires français à Mururoa. Mai 68 déclenche chez elle une politisation encore plus forte. Elle s'engage dans tous les combats politiques des années 70. Son militantisme rageur, s'il en agace certains, lui attire la sympathie d'admirateurs fervents. En témoignent les 6 représentations qu'elle donne à la Maison de la Culture de Grenoble en 1972. Elle est accompagnée par François Tusk, pianiste de jazz, et fait sa comble tous les soirs.
L'art de la joie est un défi à la culture patriarcale, fasciste et mafieuse, globalement répressive de son temps. C'est du coup un livre où la prise de conscience politique prend une part importante, toujours sur fond d'un refus catégorique d'appartenir à une église, un organisme officiel. Telle Modeste à son héroïne qui s'engage auprès des pauvres, mais refuse de devenir députée. Extraite d'un roman autobiographique, « Moi, Jean Gabin », cette phrase de l'auteur à son père en dit long sur sa philosophie. Promets-moi que même si le fascisme devient le plus puissant des puissants, tu lutteras toujours pour les pauvres, qu'eux aussi ils puissent faire des études comme moi et n'être plus humiliés par les autres. Pendant plus de 20 ans, on vient de le voir, l'édition italienne a refusé toute publication, ce qui fait que son auteur n'a pu voir son livre de son vivant. On a du mal à comprendre un tel rejet, même si les premières pages se heurtent à la morale de l'époque. Sexualité d'une enfant, meurtre de la mère, inceste, assassinat d'une mère supérieure. « C'est un ramassis d'insanité. Moi vivant, jamais on ne publiera un livre pareil », avait dit un critique italien. Un autre, moins violent, s'était contenté, si l'on peut dire, de répondre au téléphone « Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec cette chose-là, moi ?» En 1998, il y eut une première édition, on l'a dit, restée confidentielle, puis une traduction française, grâce à Nathalie Castagnier, qui s'est immergée dans le roman jusqu'à devoir se ménager pendant son travail des moments de fuite, tellement l'écriture de Goliard à Sapiens a été forte. Le succès du livre, en France, publié par les éditions Viviane Amy, eut un tel retentissement que d'autres traductions suivirent, en Allemagne, puis en Espagne. Du coup, Einaudi, un des plus grands éditeurs italiens, entreprit la publication des œuvres complètes. Einaudi, on pourrait dire que c'est un petit peu le Gallimard et la collection La Pléiade en France. Quand je sortis, la lumière m'aveugla comme tant d'années auparavant. Mais des hommes approchaient, et je ne devais pas penser au passé. Je devais seulement courir comme Carmela me l'avait dit. À remonter, le jaune infini du blé était moins effrayant. Et sans regarder, la tête baissée, je volais vers la tache sombre du bois, au-delà duquel un haut mur protégeait de la misère, que jusque-là, du moins, j'étais parvenu à fuir, mais qui attendait immuable, avec la bouche grande ouverte et la main tendue d'un enfant. Plus jamais je ne sortirai de ce mur. Elle a de bonnes jambes, ma petite patronne. Dieu sait que je ne l'aurais jamais imaginé. De loin, n'était la couleur des cheveux, je l'aurais prise pour une fille des champs ou un lièvre. Cloué sur place, je portais mes mains à ma tête. Dans mon impatience à fuir la misère, j'avais perdu mon fichu. Je maudis mon passé et ma lâcheté. Il était désormais inutile de continuer à fuir. Je serrais les poings et l'affrontais en le fixant droit au visage. Depuis des mois, je ne le regardais plus, que ce fût parce qu'il paraissait plus grand du haut du cheval, ou parce que dehors, l'émail bleu de ses yeux avait des lueurs rouges, ou parce qu'il riait. La terreur d'avant me reprit encore plus forte. « Vous devez avoir beaucoup couru, Padroncina. Vous êtes toute rouge. Si vous me permettez, je peux vous accompagner avec Orlando. À descendre, tous les saints vous aident, mais une montée est une montée. Ouh, Orlando, brigand, je te présente ma petite patronne. C'est lui qui vous a vu bouger dans le blé, qui m'a fait dévier. Alors si vous voulez, je vous accompagne. Pas à l'intérieur des murs, ne vous inquiétez pas, Carmine est un homme discret. Et si on ne le contrarie pas, il ne voit rien, ni n'entend rien. Je vous laisserai là où d'où vous êtes sorti, je vous suis à pied. Mais je... Vous voulez dire que vous ne savez pas monter sans selle ? Je ne sais pas monter à cheval. Alors il est nécessaire, même si ça ne vous plaît pas, que vous montiez devant moi. Voilà, mettez un pied ici, et maintenant vous prenez un élan, mais très bien, vous êtes agile. Je vous prie de m'excuser, mais je dois me tenir derrière vous. » Cette voix m'inspirait une terreur profonde. Quand je le sentis derrière moi, courbé, les rênes à la main, ce fut comme si une chaîne m'avait entouré de partout. Il m'avait prise au piège, voilà pourquoi il souriait. « Et pourquoi est-ce que vous tremblez comme ça, Padroncina ? Peut-être que vous avez peur du cheval, ça arrive à tout le monde la première fois. Mais vous devez vous habituer, parce que demain, quand vous serez princesse, vous devrez non seulement sur le papier, mais aussi en personne, visiter vos propriétés. « Oui, oui, mais il me fait un peu peur. Comment s'appelle-t-il »« Orlando, Patroncina, j'espère que seul l'animal vous fait peur et pas le maître de l'animal. » Sa voix et le vent me faisaient osciller à droite et à gauche. Vu d'en haut, cette immensité d'or dansante commença à me faire tourner la tête, si bien que sans le vouloir, je m'agrippais à ses bras. « Ah non, Patroncina, les bras, il faut me les laisser libres. Orlando est très jaloux et si vous vous faites trop sentir, il est capable de changer complètement d'humeur et de nous faire casser les os du cou. » « Appuyez-vous à moi avec le dos. Bien sûr, c'est difficile avec les jupes. Voilà, comme ça. Vous sentez comme je fais, moi ? Les cuisses et les genoux attachés et légers contre les flancs. Eh, voilà, bravo, comme ça. Je parie qu'en un mois, vous vous tiendrez droite, aussi bien et mieux que la principessina Béatrice. Je vous apprends quand vous voulez. » Les flancs du cheval fumaient. Les bras et les thorax de cet homme, eux, dégageaient une chaleur sèche, comme lorsqu'on se trouve devant une cheminée. Je n'ouvrais plus les yeux de peur que cet étrange étourdissement ne me reprenne. Je devais dire quelque chose, mais j'avais la bouche pâteuse. Si du moins il avait continué à parler. Mais il se taisait maintenant. Dans le silence, chaque fois qu'il tirait légèrement sur les rênes, mes vertiges augmentaient. Je sentais avec honte la sueur qui, de mon dos, se communiquait à sa chemise. Bientôt, je ne distinguais plus le tissu de mon vêtement du sien. Je ne parlais plus jusqu'à ce que je sente le cheval s'arrêter et lui descendre en me tenant un bras. « Allons, Padroncina, nous sommes arrivés, si je peux me permettre. Vous ne devriez pas avoir aussi peur de cet animal. Vous m'avez tout trempé avec votre sueur. C'est une brave bête, ce cheval, si on sait le prendre comme il faut. Voilà, descendez. » La taille entre ses mains, avant que j'aie pu ouvrir les yeux, il m'avait déjà fait faire un vol plané qui acheva de me remplir de confusion. Et, avec honte, je m'entendis dire « Oh, excusez-moi pour toute cette sueur. Vous n'avez pas à vous excuser pour votre sueur, c'est du parfum. Dieu sait que même si ma mère me l'avait dit, je n'y aurais pas cru. » Que la sueur puisse embaumer la fleur d'oranger. Je vous baise les mains, Padroncina. En riant, il monta à cheval sans plus me regarder. Mes jambes tremblaient tellement que j'eus du mal à le regarder s'éloigner avant de me jeter assise par terre. Même assise, je tremblais, et au fur et à mesure que cette chaleur moite de la chevauchée disparaissait, un froid terrible se mit à me descendre le long du corps tout entier. Et pourtant le soleil était encore haut. La voilà, là, cette tête blanche qui file, sale vieux de malheur. Il riait quand il était en dehors de la villa. Il était le maître, là. Béatrice avait raison de détester son père.
J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur 100 mers et abordé sans rivage. Partout j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire, et de grands pédants de la cantonade qui regardent, se taisent et pensent qu'ils savent, parce qu'ils ne boivent pas le vin des tavernes. Méchantes gens qui cheminent en empestant la terre. Partout j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leurs petits lopins de terre. Jamais s'ils arrivent quelque part, ils ne demandent où ils arrivent. Là où il y a du vin, ils boivent du vin. Où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche. Ce sont de bonnes gens qui vivent, travaillent, passent et rêvent, et qui, un jour, comme les autres, reposent sous la terre, reposent sous la terre.
J'ai suivi beaucoup de chemins, une chanson qui date de 1964 et qui est, fait partie du même album que Mélocotone.
Un autre extrait de L'art de la joie. Je fermais fort les yeux. L'ébahissement me glaçait. Allez, tête, allez, sois une bonne petite. Si tu ne manges pas, tu ne grandiras pas. Tu dépériras et la tcherta toute décharnée arrivera pour ramasser tes os. Allez, mange et grandis. Là, là, bien calme, petite oune. Je ne parvenais pas à me calmer. Je restais glacée, embarrassée, à la voir jouer avec mon sein, avec mes cheveux, avec mes oreilles. Comment était-ce possible? Tu es toute froide et trempée de sueur, Modesta. Je vais te sécher. Ce n'est pas que tu penses que c'est un péché. Quel mal y a-t-il? Après tout, nous sommes des femmes, toutes les deux. On ne tombe pas enceinte. Cette énormité me fit éclater de rire. Toutzou riait quand cette potiote a sorti une énormité vraiment digne de la fille effrontée qu'elle est. Je croyais rire et en fait, à ma grande surprise, je me retrouvais pleurant sur sa poitrine. Elle était grande à présent et ses bras étaient protecteurs. Oh, tu pleures? Ne pleure pas, ce n'est pas un péché, je t'assure. Allez, viens, que je boive toutes ces belles larmes salées. Je me laissais aller, j'avais froid. Mais peu à peu, cette glace de stupeur fondait sous ses caresses, et une chaleur jamais éprouvée me fit dire « Non, Béatrice, ce n'est pas un péché. » Ainsi, pour la première fois de ma vie, je fus aimée en éprouvant moi-même de l'amour, comme dit la romance. Chose si rare qu'encore maintenant je me rappelle la sensation de légèreté qui me faisait ouvrir les yeux le matin, sûre de la nouvelle aventure qui naîtrait de nos embrassements. Nous courions ensemble dans les pièces, le jardin, l'allée des palmiers. Les leçons et le thé à 5 heures étaient les seules pauses dans notre solitude à deux. Mais ces pauses étaient légères, parce que toujours, ou un regard, ou une caresse sous la table, ou une façon qu'elle avait de m'effleurer les épaules pendant que nous jouions du piano, nous rassurait sur le fait que nous serions bientôt de nouveau ensemble. Nous jouons à la nounou et à l'enfant? Oui. Cette fois, c'est toi qui fais la nounou et je fais la petite fille. Que préfères-tu faire, la nounou ou l'enfant? Oh, ça m'est égal, pourvu que je puisse être près de toi et t'embrasser. À moi aussi. M'abandonnant à elle, je sortais de cet enfer de doutes et de bandes et de murs de lave. Le couvent s'éloignait quand je la regardais dans les yeux. Il s'engloutissait derrière moi et je revoyais les étoiles. Serait-ce cela le paradis? L'amour? Je ne savais pas ce que signifiaient ces mots. L'amour qui fait se mouvoir le soleil et les autres étoiles. Certes, quand elle m'embrassait, tout tournait autour de moi. Ce n'était pas comme avec Touzou ou comme avec Mère Léonora. Une tendresse jamais connue auparavant me faisait être tranquille au milieu de ces arbres qui tournaient autour du soleil, sûre de ne pas sombrer. Si elle me déshabillait, j'apprenais d'elle quelle couleur avait ma peau, combien de grains de beauté mon dos. Mais toi aussi, tu as la taille fine. C'est juste que tu ne portes pas de corset. Tu vois qu'elle est presque aussi fine que la mienne. Tu ne me crois pas? Je vais prendre le centimètre. Et puis tu es plus grande et tu as les hanches plus larges et tu n'es pas boiteuse. Ce mot était toujours suivi de pleurs. Pour les faire cesser, il suffisait que je lui baise la jambe à peine plus mince et plus courte que l'autre. Ça ne te dégoûte pas? Me dégoûter? Ça ne fait que m'attendrir. Béatrice, que dis-tu? Ma nounou aussi disait ça. Tu me fais téter comme elle? Je te recouvre d'abord de mes cheveux. Oh oui, j'ai si froid. Et elle faisait semblant dans le soleil de trembler de froid. Et ça, entre tes jambes, qu'est-ce que c'est? Un pré. Je peux y poser les lèvres et sentir comme l'herbe est douce.
To do every woman in my fix, oh, to feel the truth, 'cause I love my man better than I love myself. And if he don't have me, he won't have nobody else. My man got teeth like a lighthouse on the sea. Oh, my man got teeth like a lighthouse on the sea. Time he smiles, he throws them lights on me. His voice sounds like chimes, I mean the organ kind. Oh, his voice sounds like chimes, I mean the organ kind. And every time he speaks, his music is my traveling mind.
Cooler FM 97.1, Any Woman's Blues, une chanson de 1963. Mais les promesses de liberté que les vagues et le vent s'en allaient répétant se brisaient le long des murs des édifices fleuris de roses et de pampres de laves coupantes. Il n'y avait pas de liberté dans ces rues, ces ruelles, ces places ambiguës, débordant de seuls hommes avec des canotiers et des cannes arrogantes, épiés par des ombres féminines cachées derrière les rideaux des fenêtres ou dans l'obscurité des pauvres rez-de-chaussée à la porte toujours entr'ouverte. Le palais de la Via Etnea déployait une kyrielle de salons hostiles où, deux jours après notre arrivée, une procession de femmes impeccablement habillées, avec des gants blancs ou noirs et de petits chapeaux à fleurs, commença à défiler devant nous en ouvrant et refermant ses éventails et prodiguant protections et conseils. Oh, Jésus-Marie, non, seuls à l'opéra? Oh non, il y a notre loge, ma chère nièce. Mais absolument, on a déjà beaucoup parlé de votre absence de dimanche, bien sûr, vous étiez fatiguée du voyage, bien sûr. Mais s'il vous plaît, mes colombes, la messe de midi, dimanche, c'est la traduction, absolument. Aller seule au café? Oh non, c'est inadmissible, cousine, inadmissible. Oh, bien sûr, c'est vraiment malheureux de n'avoir pas un frère, un mari. Au cinématographe, cette diablerie moderne, oh non, nous n'y allons jamais, excepté en quelques rares occasions et toujours à condition que l'un de nos hommes se soit d'abord assuré qu'il ne s'agisse pas d'un film trop licencieux. Un film qui traite d'un sujet historique, dites-vous, cousine? Allons donc. L'histoire, comme paravent, a des scènes inconvenantes, petites femmes décolletées, bacchanales, passons, passons. Tout le monde parle encore de ce Kabiria, une véritable honte, et ces parlementaires qui se gargarisent sous prétexte de liberté. Mais à quoi peut-on s'attendre aussi avec tous ces socialistes au gouvernement? Et notre Saint-Père, prisonnier. Avec cela, les mauvaises mœurs se répandent jusque dans nos maisons. Hier, j'ai failli avoir une attaque en entendant mon petit-fils à 14 ans seulement. Quelle génération sans cœur de désaxés et d'égoïstes est en train de nous arriver là? Que disais-je? Ah oui, j'ai failli avoir une attaque en entendant mon petit-fils inciter sa sœur à se couper les cheveux, comme le font toutes ces folles furieuses du continent, les suffragettes. Mon mari, qui les a vues à Milan, dit qu'on croirait des hommes avec ses cheveux courts et leur absence de corset. Il ne leur manque plus que de mettre des pantalons et amen, on ne respecte plus rien. Si je puis me permettre, chers amis, vous lisez trop. Ça fait mal aux yeux. Mon oncle médecin affirme que lire donne des rides. Gaïa vous y autorisait? Et naturellement toujours original. Femme de grande valeur, je ne dis pas, mais trop, trop. Dimanche dernier, à la messe, le petit baron Orthez y a montré un véritable intérêt pour notre chère Béatrice. Bien sûr, ces barons ne sont pas de vieille noblesse, mais ils sont riches. Il faudrait lui faire rencontrer Béatrice. Oh non, pas ici. Vous êtes des femmes seules. Vous ne pouvez recevoir des hommes. On pourrait profiter de la montée de cousine Esmeralda, qui s'est gentiment proposée de préparer un thé. Eh, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'un homme entrât dans cette maison. Béatrice pâlissait, et moi, de plus en plus oppressée par les chiffres et les comptes, je ne dormais plus. Me retournant dans le lit, je me cognais au mur de cette prison de paiement, impôt foncier, contrat de location. Gardes champêtres et contremaîtres peinaient à percevoir les loyers, les paysans relevaient la tête, la campagne ne rapportait pas, les salaires avaient triplé. Pour lire quelques livres, j'avais sacrifié des heures et des heures de sommeil. Le piano se taisait, la malle de Jacopo, encore fermée, gisait dans la pièce à côté, oubliée dans un coin. Dans quel piège étais-je tombé? Je portais à bout de bras cette espèce d'immense royaume qui prenait l'eau de toutes parts et cette énorme maison tenue comme un palais royal. La villa à la campagne, toujours ouverte, fonctionnant comme un hôtel en attente du retour de tous ces morts, 20 bouches à nourrir, 20 salaires à débourser, je ne dormais plus. Gaïa aussi souffrait d'insomnie. Je comprenais à présent son regard obsédé, sa façon de rester tout le temps enfermée dans son bureau, occupée à maintenir cette bataille impossible. À quoi s'était-elle donc sacrifiée? Au devoir d'un nom à maintenir bien haut dans la considération des autres ou à ses propres yeux? De fait, tous ses avocats, banquiers, notaires avaient comme elle ce regard sourd, fixé dans une seule direction. Carmine est non. Carmine est sur son cheval, ses boucles blanches, immobiles dans l'air, courait vers moi dans mon souvenir en riant. Depuis des mois, je ne le voyais plus qu'entouré de notaires et d'avocats engoncés dans leurs gilets et vestes noires ajustées. Dès qu'il pouvait, il s'enfuyait. Moi aussi, je devais fuir de ces murs et de ces hommes que j'avais tant admirés quand je m'occupais de l'administration à la Villa du Carmel, mais qui maintenant m'apparaissaient comme les détenus d'une prison qu'eux-mêmes s'étaient construite jour après jour. La ville instruisait ce pouvoir de coupoles majestueuses, de palais et de tours rapaces à peine adoucis par des dentelles de grise hautaine, barrait le passage aux fourmillements misérables qui s'épuisaient à servir et sourire, rappelant à tous, riches et pauvres, d'accumuler de l'argent pour combattre la peur de la mort, mot qui en réalité n'est pas plus effrayant que les mots « maladie »,« esclavage » ou « torture ». Je ne me confronterai plus avec la mort, avec cette ligne d'arrivée qui, si on ne la redoute plus, rend éternelle chaque heure pleinement savourée. Mais il fallait être libre, profiter de chaque instant, expérimenter chaque pas de cette promenade que nous appelons vie, libre d'observer, d'étudier, de regarder par la fenêtre, de guetter à travers cette forêt d'édifices chaque lumière qui de la mer se glisse entre les volets. Quelqu'un avait éteint tous les réverbères, la sirène du port saluait un bateau invisible, l'un après l'autre s'élevait le fracas des rideaux de fer qu'on ouvrait, un cri de marchand de poissons montait des ruelles qui croisaient la Via Etnea, coupant l'appel de l'homme de la neige qui évoquait la grosse chaleur pour vendre la salive du mont.
Colliarda, Sapienza, Colette Magny, ces deux artistes se rapprochent également dans leurs engagements esthétiques, avec toujours le même refus de la moindre concession et de tout compromis. Ni l'une ni l'autre ne cherchent à plaire, elles vont jusqu'au bout de leur exigence d'authenticité, quitte à déranger. C'est probablement pour cette raison que leur œuvre sort de l'ordinaire. Ainsi, Colette Magny, refusant de chanter à nouveau mélocotone, comme de se spécialiser dans les standards américains de blues ou de jazz, répertoire où elle excellait, s'orienta vers des textes poétiques français. Colette Magny hurlait Antonin Artaud. Elle chantait l'hymne des Black Panthers sous les arbres de Shenfruit, chanson interprétée à l'origine par Billie Holiday, ces étranges fruits symbolisant les noirs pendus aux arbres du racisme. Quel souffle! Elle chantait Verlaine sur une musique de forêt, la chanson de la plus haute tour de Rimbaud, et encore Louise Labbé, sans oublier Louis Aragon, Victor Hugo, Max Jacob, Tristan Tzara, Rainer Maria Rilke, Antonio Machado. Elle faisait des collages de textes, dont ceux de Jean-Paul Sartre, chantant la révolution cubaine tout en utilisant les sonorités du jazz. Sa maison de disques américaine, CBS, qui avait racheté son premier éditeur, accueillit mal cette œuvre unique et remarquable. Lorsque le représentant de la maison de disques lui dit « Sir Sartre est un communiste !» elle lui aurait, selon son témoignage, renversé son bureau sur les jambes. Puis elle fut accueillie par le Champ du Monde, un éditeur proche du Parti communiste, où elle connut une grande liberté pour produire une œuvre hors norme. Lancée dans le jazz allant même jusqu'au jazz le plus free, le rock progressif ou les ballades les plus dépouillées, elle passait des chansons pour Titine dans l'album Bluesy Bluesy à des imprécations sur fond de témoignages contre la guerre du Vietnam ou du Chili. Elle pouvait également chanter de simples lettres de grand-mère à sa fille, toujours avec cette voix qui fait d'elle une chanteuse unique en France. Elle a même interprété des berceuses, bouleversante d'émotion. Les plus grands musiciens voulaient travailler avec elle, les pianistes Maurice Vander, François Tusk, Patrice Caratini et Henri Texier, contrebassiste, Jean-Pierre Chatty, Richard Foy, saxophoniste. Avec André Almuro, compositeur membre du groupe de recherche musicale de la RTF, elle aborde aussi la musique électroacoustique contemporaine. Dans sa discographie, on peut noter en 65 Mélocotone, en 66 Avec, en 67 Vietnam 67, en 69 Mani 68-69, en 70 Feu et Rythme, en 72 Répression, en 74 Transit. 1981 Tanakan, 1983 Chanson pour Titine, en 89 K-Work Le Délit d'Errance et en 91 Inédit 91.
Goliard est l'auteur de 6 ouvrages, nous avons parlé de son roman principal, on pourrait citer aussi « Moi, Jean Gabin », écrit dans les dernières années de sa vie, un étrange roman autobiographique, l'histoire magnifiée d'une enfance dans la Sicile de l'entre-deux-guerres, véritable testament philosophique. Ce livre se révèle être un des plus beaux textes de Goliard à Sapienza, un éloge à la liberté et aux rêves qui ont précocement nourri sa vie. L'université de Rebibbia est le récit du séjour que fit Goliard dans une prison en 1980, moment critique dans la vie de l'auteur. Après s'être consacré de 1976 à 1976 à l'écriture du monumental roman L'Art de la Joie, à avoir fait face à un refus général des éditeurs italiens, c'est une femme moralement épuisée qui intègre l'univers carcéral de Rebibbia, la plus grande prison de femmes du pays, pour un vol de bijoux. Qu'il est difficile d'interpréter, aveu de dénuement, acte de désespoir, n'importe. Comme un pied de nez fait au destin, Goliard va transformer cette expérience de l'enfermement en un moment de liberté, une leçon de vie. Elle, l'intellectuelle, la femme mûre, redécouvre en prison auprès de prostituées, de voleuses, de junkies et de jeunes révolutionnaires ce qui l'a guidée et sauvée toute sa vie durant, le désir éperdu du monde. Les certitudes du doute, pour en terminer, dévoile au lecteur une nouvelle facette de Goliard à Sapienza, celle d'une femme éprise qui fait des rues et des sous-sols romains le théâtre de ses émotions. Le texte, précieux pour les adorateurs de l'art de la joie, est le témoignage d'un être qui n'a jamais cessé de remettre en question sa vie et le monde qui l'entoure. Ancré dans son siècle autant que farouchement décidé à échapper aux embrigadements de toutes sortes, Goliard révèle les difficultés de l'existence humaine. Mais elle ne peut s'empêcher de rêver à une vie meilleure. Elle ne craint pas de faire apparaître nos contradictions, de dire nos souffrances, nos désirs, les peurs qui nous poursuivent. Elle traque sans relâche l'ambiguïté, le mensonge. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale di sfidare il tempo in due, d'essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile, prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende come ora fa o mi bacia fra le gambe proprio come tu faceva allora, mi trovò a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta?
No.
Pensi?
Sì.
Racconta, Modesta, racconta.
Non, on ne peut communiquer à personne cette plénitude de joie que donne l'excitation vitale de défier le temps à deux, d'être partenaire dans l'art de le dilater en le vivant le plus intensément possible avant que ne sonne l'heure de la dernière aventure. Et si cet homme, mon vieux petit ami, s'étend sur moi avec son beau corps lourd et léger et me prend comme il le fait maintenant ou me baise entre les jambes comme Touzou le faisait autrefois, je me retrouve à penser bizarrement que la mort ne sera peut-être qu'un orgasme aussi comblant que celui-là.
Tu dors, Modesta?
Non.
Tu penses?
Oui.
Raconte, Modesta, raconte.
Rome, 1967-1976.
Yes, he turned and he walked past the eyes of my life, and he nodded and sang with that sound, and his face had a look of a man who knew strife and a feeling familiarly came around. I said, man, where have you been for all these years? Man, where were you when I sought you? Man, do you know me as I know you? Man, am I coming through? And he spoke in a voice that was centuries old, and he smiled in a way that was strange, and his full lips of night spoke about our people's plight, and a feeling familiarly came. I said, man, where have you been for all these years? Man, where were you when I sought you? Man, do you know me as I know you? Man, am I coming through? And we sat and we talked about freedom and things, and he told me about what he dreamed, but I knew of that dream long before he had spoke, and a feeling familiarly came around. I said, man, where have you been for all these years? Man, where were you when I sought you? Man,
cannon through. Men, am I cannon through?